Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel, il est 13h30 ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Et dans une demi-heure, ce sera l'heure de votre journal, Florent Guignard, avec à la une...
À la une, cette question qui a gagné, qui a perdu, question posée évidemment au lendemain du débat télé entre Kamala Harris et Donald Trump. Et dans une demi-heure, vous entendrez les deux candidats à la présidentielle américaine du 5 novembre. Et puis vous entendrez aussi Taylor Swift, la chanteuse au poids immense à apporter hier soir dans la foulée de ce débat, son soutien à Kamala Harris. Le chef de la diplomatie des États-Unis est en visite à Kiev aujourd'hui avec son homologue britannique et cette question posée. Un soutien militaire accru à l'Ukraine, des missiles longue portée. Quand l'armée israélienne tire sur un convoi de l'ONU, nouvel incident dans la bande de Gaza, nouvelle tentative d'intimidation, dénoncent les Nations Unies. Un gouvernement la semaine prochaine, c'est la promesse du nouveau Premier ministre français Michel Barnier, nommé il y a déjà une semaine, alors que personne à gauche ne veut le rejoindre ni même le rencontrer. Enfin, la mort de Didier Roustan. Grand journaliste du foot en France. Il avait notamment aidé Maradona à créer un syndicat de footballeurs dans les années 90 et on l'entendra tout à l'heure.
A tout à l'heure, Florent Guignard, on vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure maintenant.
RFI Midi.
D'ici là, l'actualité en Europe, on va parler de cette visite d'Anthony Blinken en Ukraine. Nous vous emmènerons aussi découvrir le quotidien d'un bataillon de combattants russes engagés aux côtés de l'armée ukrainienne. On parlera d'ailleurs de tous ces combattants étrangers qui ont décidé de s'engager. À suivre aussi notre chronique environnement et notre monde de tech comme tous les jours.
RFI, l'Europe à midi.
La visite était très attendue. Le secrétaire d'État américain et le chef de la diplomatie britannique sont à Kiev, tous les deux pour afficher leur soutien à l'Ukraine, pour montrer que leurs pays sont toujours aux côtés de l'armée ukrainienne, qui, elle, attend toujours plus. Plus d'équipements, plus d'armes et l'autorisation aussi d'utiliser ces armes directement contre la Russie. Volodymyr Zelensky veut pouvoir frapper la Russie en profondeur avec les armes occidentales et les choses pourraient bouger. En tout cas, Anthony Blinken a promis hier que son pays fournirait à l'Ukraine ce dont elle aurait besoin. Mais pour l'instant, pas d'annonce, Romain Le Maresquier. Le secrétaire d'État américain voulait d'abord se rendre sur place et parler des objectifs.
C'est une visite qui pourrait bien marquer un tournant. Anthony Blinken l'a clairement annoncé ce mardi lors de son déplacement à Londres. Le secrétaire d'État américain a confirmé que son pays n'excluait pas de donner son feu vert à l'acquisition d'armes à longue portée, mais qu'il devait tout d'abord s'assurer que cela permettrait de faire progresser les objectifs que les Ukrainiens cherchent à atteindre. Accompagné par le nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, qui n'est en place que depuis 2 mois, Anthony Blinken souhaite également vérifier que les forces ukrainiennes sont en mesure d'entretenir et d'utiliser certaines armes, un préalable indispensable avant un éventuel feu vert pour utiliser des armes à longue portée contre des cibles en territoire russe, comme le réclame depuis des mois Volodymyr Zelensky. Selon la presse ukrainienne, Londres ferait pression sur Washington et serait d'accord de son côté pour accorder cette autorisation, mais seulement si d'autres alliés de l'Ukraine en font de même. Joe Biden, qui doit rencontrer ce vendredi le Premier ministre britannique Keir Starmer, a confirmé réfléchir en ce moment à cette question, sachant qu'aux États-Unis, même les principaux membres républicains du Congrès plaide pour ce changement de stratégie.
Et sans attendre d'annonce officielle, Moscou a déjà réagi. La Russie promet ce qu'elle appelle une réponse appropriée si l'Ukraine était autorisée à utiliser des armes de longue portée occidentale. Sur le terrain, la situation est toujours très délicate. Les autorités ukrainiennes annoncent avoir abattu plus de 20 drones russes ces dernières heures et l'armée est en grande difficulté dans l'Est. Elle est appuyée par plusieurs groupes de combattants étrangers, dont le bataillon Siberia, composé de civils russes. Ils sont essentiellement issus des minorités de l'Est et ont participé à plusieurs opérations sur la ligne de front, à Avdivka ou alors à des incursions dans la région de Belgorod sur le sol russe il y a quelques mois ou encore plus récemment à Vovchansk. Certains de ces soldats ont accepté de se confier à notre correspondante Emmanuelle Chaz.
Certains reviennent de Belgorod où ils ont participé aux premières incursions en territoire russe au mois de mars dernier. D'autres de la péninsule de Kinburn dans le sud de l'Ukraine où avec d'autres soldats ils ont participé à des offensives cet été. Les hommes que vous entendez ici sont tous russes. Ils font partie du bataillon sibérien et se battent contre les troupes de Moscou aux côtés des Ukrainiens. Si leurs horizons sont divers, ils partagent la conviction qu'il leur fallait prendre les armes contre leur propre pays, comme le confie Walter, une cinquantaine d'années, qui a rejoint le bataillon à l'automne 2023.
Nous ne sommes encore que quelques-uns, mais nous avons fait notre choix. Le bataillon sibérien et d'autres unités militaires composées de citoyens de la Fédération de Russie ont choisi leurs armes. Et j'exhorte tous ceux qui détestent le régime de Poutine à apporter leur aide et à y participer.
Blessé lors de la bataille d'Avdiivka, Walter déplore la trop grande complaisance de l'Occident envers Moscou dès l'invasion de la Géorgie.
Si en 2008, tous les politiques européens avaient agi de manière unie et avaient introduit au moins un dixième des sanctions contre la Russie introduites après le 24 février, je pense que ni 2014 ni 2022 n'auraient eu lieu. Le rat aurait été arrêté au tout début de son voyage. Malheureusement, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale hitlérienne s'est répétée.
Maloy, une vingtaine d'années, fait partie des jeunes recrues du bataillon. Il est originaire de la République de Bachkirie et a déjà participé à plusieurs opérations, dont les incursions de Belgorod aux côtés de deux autres formations de soldats russes en Ukraine. C'était en mars dernier, bien avant l'opération de Koursk.
L'opération s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévu initialement, mais elle a réussi, car les pertes russes ont été assez importantes. La brigade adverse, qui se trouvait dans notre direction, a perdu environ la moitié de ses officiers.
Ce soutien de quelques Russes à la défense ukrainienne est loin d'être anodin. Pour bien des recrues du bataillon sibérien, il appuie leurs propres aspirations d'indépendance, celles des minorités de la Fédération de Russie, comme les Bachkirs, mais aussi les Bouriates ou encore les Yakouts. Aux côtés de Walter et Maloy, on retrouve Kipchak, lui aussi Bachkir. Âgé d'une quarantaine d'années, il a quitté la Russie et sa profession libérale au moment de l'invasion à grande échelle. Pour lui, soutenir le combat des Ukrainiens est aussi appuyer la libération de son propre peuple.
L'une de mes motivations pour venir ici et aider l'Ukraine à résister à l'agression russe, c'est précisément la compréhension que nous ne pouvons combattre le régime qu'en soutenant d'autres peuples. Autrement dit, l'exemple de la Tchétchénie montre qu'une seule république n'est pas capable de combattre Moscou. Aujourd'hui, la situation est telle que peut-être le seul pays qui peut nous aider à libérer notre république, c'est l'Ukraine. Finalement, notre objectif est assez égoïste. En aidant l'Ukraine, nous espérons qu'à l'avenir, avec le soutien de pays pour ainsi dire civilisés, nous pourrons libérer nos républiques.
Tous les mois, de nouvelles recrues arrivent en Ukraine, une vingtaine environ. Après un long processus de recrutement, les Russes jugés aptes et dignes de confiance embarquent pour une formation aux techniques de combat. Parmi leurs formateurs, on retrouve Batia, un vétéran ukrainien.
On voit les jeunes communiquer avec leurs frères d'armes plus âgés. Ils leur disent ce qu'est la guerre, que c'est moche, que ça fait peur, que la mort fait peur. Mais leur motivation ne baisse pas. Ils veulent se battre, s'entraîner de manière tout à fait consciente, se préparer. La génération précédente leur dit à quoi ils doivent faire attention. Et nous, on leur donne des compétences tactiques.
Chaque mois, le bataillon sibérien s'étoffe. Pour Walter, c'est aussi une question d'honneur pour ceux des Russes qui se disent opposés au régime du Kremlin.
Il existe une expression, le collier d'un esclave est toujours plus léger que l'armure d'un guerrier. Mais même si je meurs, je saurai que je n'ai pas vécu cette vie en vain. Je mourrai pour une juste cause. Vous avez une chance de devenir humain et de vous regarder dans le miroir sans honte. Pensez à la façon dont vos enfants grandiront et à ce qu'ils vous diront. Papa, maman, où étiez-vous à ce moment-là ?
Papa, mama, à qui ?
Reportage de notre correspondante en Ukraine, Emmanuelle Chaz. Vous venez d'entendre des combattants russes, mais ils ne sont pas les seuls engagés aux côtés de l'armée ukrainienne. Léonard Vincent, de nombreux civils ont répondu à l'appel lancé par Kiev dès l'invasion russe il y a 2 ans et demi. Plus de 20 000 personnes venues de 52 pays différents selon le gouvernement.
Oui, d'abord un rappel, le 27 février 2022, l'ex-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, avait déclaré que le président Volodymyr Zelensky lui avait demandé de lancer la formation d'une légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, une unité de combattants volontaires étrangers. Et une semaine plus tard, vous l'avez dit, Kiev parlait de 20 000 combattants venus de 52 pays, surtout des États voisins, les États baltes, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, mais aussi des États où est implantée une diaspora ukrainienne nombreuse, comme le Canada, ainsi que des transfuges russes, donc on l'a entendu, biélorusses ou tchétchènes. Bien sûr, il fallait déjà à l'époque et encore aujourd'hui prendre ces chiffres avec beaucoup de prudence. Il s'agirait plutôt, selon le chercheur Kasper Rekavec, du nombre de personnes ayant pris contact avec les autorités ukrainiennes, mais pas de combattants effectivement engagés sur le front. D'ailleurs, l'année dernière, une enquête de la presse américaine chiffrait plutôt à 1500 ou 2000, pas plus, le nombre de combattants étrangers étrangers aujourd'hui sur le terrain.
Et qu'en est-il aujourd'hui ?
Aujourd'hui, il n'y a plus de communication officielle sur le sujet, mais les experts militaires estiment qu'il n'y aurait de toute façon plus beaucoup de combattants étrangers, même s'il y en a encore. Ils seraient dispersés dans différents bataillons selon la langue qu'ils parlent et selon leur spécialité, car on compte évidemment dans les rangs des volontaires étrangers bon nombre d'anciens soldats ayant déjà des connaissances techniques qu'il s'est agi d'intégrer dans le dispositif militaire ukrainien. D'ailleurs, l'année dernière, l'Ukraine a également lancé une campagne incitant les pilotes de F-16 à venir renforcer son aviation.
Et ces recrutements d'étrangers posent un certain nombre de problèmes en Ukraine, mais aussi dans leur pays d'origine.
Oui, d'abord, il y a les questions légales, le mercenariat, comme on dit, ou même simplement combattre contre un salaire pour un État étranger est interdit dans nombre de pays comme l'Algérie, l'Autriche, l'Inde, le Nigeria, la Corée du Sud, la Suisse, entre autres. Ce n'est de toute façon pas encouragé par certains gouvernements étrangers, même s'ils ne s'y opposent pas, pour malgré tout soutenir l'effort de guerre ukrainien. Un combattant étranger évalue de toute façon dans une zone grise de la légalité, puisqu'il est comptable non seulement de son comportement dans la zone de guerre, mais aussi dans son pays natal, au regard des lois de son pays natal. Et puis, il y a la question de la discipline, du rapport entre le soldat et la cause pour laquelle il se bat. Elle peut être idéaliste ou purement aventurière, mais aussi très politique, loin de la seule défense de l'Ukraine, ou bien lucrative, ce qui a entraîné des désertions à cause du maigre salaire versé par Kiev. Et puis, ça a été aussi un moyen pour des délinquants d'échapper à la police. On l'a vu plusieurs fois avec des cas d'extradition par l'Ukraine de combattants étrangers qui étaient recherchés dans leur pays natal.
Merci Léonard Vincent. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, plusieurs séries de sanctions ont été mises en place ces derniers mois, ces dernières années, par les pays alliés de l'Ukraine, et les entreprises occidentales continuent de se retirer de Russie. Mais au compte-gouttes, Nathanaël Vitran, et le dernier départ en date, c'est celui du géant anglo-néerlandais Unilever.
Oui, d'après la presse russe, la multinationale serait sur le point de vendre toutes ses opérations en Russie. Dans les premiers mois qui avaient suivi l'invasion russe, on avait observé un retrait massif des entreprises européennes et américaines. Mais depuis, les annonces de départ se font plus rares. D'ailleurs, plus de la moitié des entreprises étrangères présentes en Russie avant 2022, eh bien, elles sont toujours sur place. L'Université d'économie de Kiev tient rigoureusement les comptes. Alors évidemment, ce n'est pas un tableau homogène. Sans surprise, les entreprises biélorusses ou iraniennes sont restées. À l'autre extrême, 2/3 des boîtes américaines et un peu moins de la moitié des européennes se sont retirées, elles, du pays. Et puis entre les deux, 15% tout de même des sociétés chinoises sont parties. Mais si on regarde les entreprises étrangères qui ont réalisé le plus de bénéfices en Russie en 2023, le tableau est plus nuancé. Dans le top 10, on trouve certes deux entreprises chinoises, mais toutes les autres sont issues de pays alliés de Kiev, États-Unis, France, Suisse ou Autriche.
C'est par avidité que ces entreprises refusent de partir ?
C'est ce que leur reprochent en tout cas les Ukrainiens. Même si pour être juste, il faut rappeler que partir coûte cher. On parlait d'Unilever, le prix de vente qui circule pour sa filiale russe se situe entre 350 et 500 millions de dollars. C'est moitié moins que sa valeur estimée. Prix imposé par le Kremlin au bénéfice des oligarques et des proches de Vladimir Poutine.
Merci Nathanaël Vitran. 14h43 à Kiev. Il est 13h43 ici à Paris.
RFI Midi.
On va parler maintenant du délit de faciès en France. Jeune homme noir ou arabe, cela représente 20 fois plus de risques d'être contrôlé par la police. Voilà ce que dit la défenseure des droits. D'ailleurs, la France a été condamnée à plusieurs reprises pour ses contrôles au faciès. Et en avril dernier, 5 ONG ont saisi le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU. L'objectif, c'est de contraindre le gouvernement français à interdire les contrôles d'identité discriminatoires. Ces contrôles d'identité, ces contrôles au faciès, en fait, ils sont même systémiques, c'est ce que disent beaucoup d'experts, d'associations et de victimes. Reportage dans le nord de la France à Lille, de Lise Verbeck.
À Lille, la Ligue des droits de l'homme a identifié des endroits où les contrôles au faciès sont récurrents. Emmanuelle Jourdan-Chartier est la présidente de la section lilloise.
Vous pouvez vous mettre à la sortie de la gare Lille-Flandre, de Ralille, Place de la République, le métro-gare à Roubaix. Tous ces endroits-là, on sait qu'il y a des contrôles au faciès, mais il y a très peu de plaintes. C'est comme si c'était un peu invisibilisé, parce que c'était tellement intégré par les victimes qu'elles n'osent même plus ou elles acceptent comme une fatalité cette situation de contrôle discriminatoire.
C'est le cas d'Abakar, 20 ans. Il a subi plusieurs fois des contrôles qu'il juge discriminatoires. Ça lui est d'ailleurs arrivé le matin même.
Je sors du métro, je montais les escalators, tout et tout. Et il y avait plein de monde autour de moi. J'ai aperçu la BAC de loin. Et dès qu'ils m'ont aperçu aussi, automatiquement, ils se sont braqués vers moi. Et dès qu'ils sont venus, ils m'ont demandé « Monsieur, votre pièce d'identité ?» Je leur ai demandé qui ils étaient et ils m'ont présenté leur badge comme quoi ils étaient de la police. Du coup, j'ai sorti ma pièce d'identité, je les ai montrés. Mais je pense que c'est un truc qui ne se fait pas, quoi. Après qu'ils m'ont contrôlé, je me suis arrêté pendant un moment à réfléchir. À chaque fois que je voyais, ils voyaient les Noirs passer, ils les contrôlaient. C'est incroyable, que les Noirs et les Arabes, que ça. En fait, je me sentais mal dans ma peau et je me demandais est-ce que vraiment ce racisme ou ce qu'on subit actuellement va s'arrêter. Mais à un moment donné, je me suis dit que franchement, je ne pense pas que ça va s'arrêter.
À Amiens, Lucien Fontaine, le président d'SOS Racisme, reçoit aussi régulièrement des témoignages de contrôle au faciès.
J'ai eu le témoignage d'un jeune hein, qui s'est fait contrôler 6 fois dans la même journée et qui me parle de son dernier contrôle par la police municipale. Ils sont à deux, ils sont en train de discuter, un policier arrive. Mais qu'est-ce que vous faites ? Donc ils sont en train de discuter. Et puis, vous faites quoi dans la vie ? Puis le jeune dit, bah moi je suis en terminale. Quoi ? Toi en terminale, toi avec ta tête ? Mais c'est pas possible en fait. Toi t'as un bon à rien, tu peux pas être en terminale. Il s'est dit, mais pourquoi ? J'ai pas une tête à être en terminale. C'est quoi avoir une tête à être en terminale ? Et puis pourquoi nous deux, moi qui suis métisse et l'autre qui est arabe, pourquoi on nous agresse dans la rue comme ça alors qu'on faisait rien de mal, on était en train de discuter ?
Des contrôles discriminatoires qui, selon lui, creusent le fossé entre les jeunes et la police.
C'est frustrant. C'est humiliant. Le fait d'être contrôlé plusieurs fois par jour, ça amène une sorte de mal-être aussi en se disant mais pourquoi moi en fait, pourquoi je suis contrôlé tout le temps, donc je ne fais pas partie de cette société, voilà. Et donc ça peut amener aussi à d'autres choses, à des formes de violence après, à des formes de paranoïa dirigées contre la police, en pensant que tous les policiers sont tous des racistes ou tous des violents en fait, voilà. Donc on arrive à des amalgames et on arrive aussi à deux mondes qui ne se parlent plus en fait.
Le Conseil d'État a reconnu en fin d'année dernière que les contrôles discriminatoires n'étaient pas des cas individuels isolé, mais il s'est estimé incompétent pour contraindre l'État à prendre des mesures pour empêcher ces contrôles au faciès, comme par exemple le récépissé de contrôle d'identité réclamé de longue date par les associations. Chaque personne contrôlée se verrait remettre un papier avec la date, le lieu, le motif du contrôle. Mais selon Emmanuel Jourdan-Chartier de la Ligue des droits de l'homme de Lille, cela ne réglera pas tout.
Je crois qu'il y a aussi des éléments dans le message que fait passer la hiérarchie policière et la gouvernance politique aux forces de l'ordre qui sont extrêmement importants. Il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance du caractère illégitime de ce type de contrôle. Les policiers ne reconnaissent pas du tout comme illégitime ce contrôle au faciès. Ils considèrent que ça fait partie de leur taf et que c'est normal. Donc tant que ce sera intégré à ce point-là, même s'il y a un récépissé, si le jeune gamin Black qui va au lycée, il continue à se faire contrôler 4 fois, mais qu'il a 4 récépissés, bon, ça va pas beaucoup l'arranger. Voilà, je pense que faut aller au-delà et il faut vraiment qu'il y ait une consigne beaucoup plus claire faite aux agents sur le terrain.
Ça passe aussi par la formation pour Christian Corel. Il a été policier pendant 20 ans et il a créé l'association Agora des citoyens de la police et de la justice.
Il faudrait mieux former les policiers, déjà leur expliquer que le contrôle d'identité n'est pas la seule manière de discuter avec des jeunes. Aujourd'hui, c'est devenu le seul outil qui permette à des jeunes de discuter avec des policiers. C'est trop restrictif. Donc je crois qu'il faudrait aussi aller dans la formation des policiers, déjà peut-être avec des jeunes aussi, des quartiers populaires. Ça existe déjà, je crois par ailleurs, j'invente rien, mais c'est peut-être pas assez développé. Mais que ces jeunes aillent expliquer dans une école de police qu'est-ce que ça fait que d'être contrôlé de façon intempestive. Que les futurs policiers qui seront demain sur le terrain puissent l'entendre aussi. Je crois aussi que le contrôle d'identité, c'est aussi une question de manière d'aborder les choses. Il y a contrôle et contrôle. On peut contrôler l'identité en étant agréable, sans être trop virulent dans la façon de parler, trop direct avec la personne qui est contrôlée. Et peut-être parfois expliquer aussi, c'est pas tout le temps le cas, il faudrait pas que ça devienne une règle, de devoir expliquer pourquoi est-ce qu'on contrôle une personne.
Pour quantifier ces contrôles au faciès, la Ligue des droits de l'homme va lancer en septembre une grande enquête à Lille et dans plusieurs grandes villes en France.
L'idée étant de documenter effectivement, à la fois par l'observation directe, mais aussi par le recueil de témoignages. Et nous allons encore plus renforcer les liens avec les collectifs locaux, en particulier des quartiers les plus concernés, les assos, les centres sociaux, etc., pour s'appuyer sur tout ce réseau et essayer d'avoir une grande campagne de recueil d'informations précises avec un questionnaire que les victimes pourront compléter en précisant les circonstances, le lieu, l'horaire exact, les éventuels gestes humiliants type palpation, etc., les amendes qui pourront s'en être suivies, enfin l'ensemble du processus, avec l'idée de pouvoir ensuite établir un plaidoyer, de pouvoir interpeller les élus locaux en disant bah là, à tel endroit, il y a un vrai problème et il apparaît dans les chiffres, pouvoir aussi avoir un plaidoyer national.
Ces chiffres seront transmis à des chercheurs en sciences sociales pour les analyser. Ils serviront aussi pour une grande enquête enquête lancée par une association espagnole pour documenter et faire un état des lieux des restrictions des libertés individuelles en Europe, notamment en Slovénie, en Italie, en Pologne, en Espagne et en France.
Reportage à Lille de Lise Verbecker, reportage à retrouver dans l'émission Accent d'Europe ce soir à partir de 19h10 temps universel ou quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio. Notre question d'environnement, comment l'urbanisation aggrave-t-elle les inondations en Inde ? Elle s'impose de nouveau cette question après des intempéries dramatiques dans l'état du Gujarat. Sa capitale culturelle, Vadodara, a été victime des pires inondations de son histoire le mois dernier et pour éviter un débordement, les autorités ont décidé d'ouvrir les vannes d'un barrage, ce qui n'a pas empêché une rivière de sortir de son lit. Et cette crue, Stéphanie Schuller, elle a provoqué la mort de 35 personnes. Ainsi que le départ de dizaines de milliers d'habitants obligés de quitter leur maison. Et ça, c'est d'autant plus frappant, Stéphanie, que Vadodara est habituée aux inondations.
Oui, tout à fait. C'est autour de son longue histoire, veille de près de 2000 ans, la ville s'est développée vraiment en fonction de ses crues. Vadodara est traversée par la rivière Wishwamitri. Le barrage dont vous parliez a été construit il y a 134 ans. Il devait assurer aux habitants un approvisionnement en eau douce dans cette région qui en manque. Sauf pendant la saison de la mousson qui dure de début juin à la fin août. Pendant des siècles, les constructeurs de Vadodara ont respecté cette rivière qui serpente à travers la ville et ses plaines alluviales, véritable ceinture verte, large de plus d'un kilomètre en plein milieu de la cité. Mais depuis une vingtaine d'années, la pression démographique et les intérêts de spéculateurs immobiliers ont fait chavirer cet équilibre précaire. Sanjeev Joshi est architecte et urbaniste à Vadodara.
La ceinture verte a connu de graves bouleversements. Des résidences d'habitation y ont été construites, des gratte-ciels, des hôtels, et tous sont devenus des obstacles pour l'eau qui ne pouvait plus s'écouler comme avant et qui a débordé dans les quartiers résidentiels qui ont été construits à l'intérieur de ce qui fut la ceinture verte. Cela a déséquilibré l'ensemble de l'écosystème de la rivière. Les autorités n'ont pas pris en compte l'importance vitale de ces zones inondables qui, avant, fonctionnaient comme des éponges pour la ville qui absorbait l'eau en cas de crue. Leur végétation dense avait protégé pendant des siècles le lit de la rivière contre l'érosion et les rives sur lesquelles s'étaient construits les quartiers. Mais en construisant dans cette zone de protection, on a complètement perturbé l'écologie naturelle. C'est pour ça que tout le monde parle maintenant d'une catastrophe causée par l'homme.
Le changement climatique rend la mousson plus intense et donc le danger pour la population de Vadodara encore plus important.
Absolument, Anne. La colère des habitants est grande après cette catastrophe. Les solutions sont pourtant évidentes, estime Sanjeev Joshi. Il faudrait construire un canal pour pouvoir dévier l'eau du barrage vers une autre rivière en cas de pluies extrêmes. Mais surtout, il faut redonner sa place à la nature.
Nous avons besoin de deux étapes clés. Premièrement, nous devons restaurer la ceinture verte. Pour cela, nous devons enlever certaines des constructions que nous y avons implantées. Et deuxièmement, nous devons déclarer les lacs, les zones inondables, la rivière et ses affluents, ainsi que les canaux comme des zones interdites à la construction, en tant que zones écologiques essentielles.
C'est un débat qui fait rage en ce moment à Vadodara, à l'échelon du pays. En mai 2021 déjà, le National Green Tribunal, en français le Tribunal National Vert, en charge des affaires juridiques liées à la protection de l'environnement, avait demandé aux autorités de la ville de restaurer la rivière.
Merci Stéphanie Schuller, c'était notre question d'environnement du jour.
RFI Midi, un monde de tech.
Utiliser l'intelligence artificielle pour patrouiller sur Internet, pour créer des profils de suspects. Voilà ce que veut faire le gouvernement argentin. Grâce à l'unité d'intelligence artificielle appliquée à la sécurité, elle a été créée le mois dernier et placée sous le contrôle du ministère de la Sécurité. Sa mission, prévenir, détecter et lutter contre la cybercriminalité. Le champ d'action est très large et il pose question à un certain nombre d'organisations de la société civile qui soulignent les risques en matière de présomption d'innocence et de respect de la vie privée. Théo Conscience, vous êtes le correspondant de RFI à Buenos Aires. Expliquez-nous exactement ce que sont les missions de cette nouvelle unité et pourquoi elle suscite autant d'inquiétudes.
Eh bien, selon son décret de création, la première fonction de cette nouvelle unité sera, je cite, de patrouiller sur les réseaux sociaux ouverts, sur les applications et sur les sites internet afin de détecter des délits et d'en identifier les auteurs. Autrement dit, elle utilisera l'intelligence artificielle pour réviser de manière automatique l'immense masse de données en sources ouvertes présentes sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou X, sur les forums ou sur les applications que nous avons tous sur nos téléphones. Plusieurs ONG dénoncent un cadre flou et un champ d'action disproportionné qui pourrait permettre à l'État de s'immiscer dans la vie privée des citoyens sans mandat judiciaire. Selon la Fondation Via Libre, spécialisée dans les implications sociales des nouvelles technologies, ces patrouilles automatisées sur les réseaux sociaux sont même illégales. L'ONG souligne que ce genre d'investigation n'est autorisé que sur la base de soupçons justifiés et à condition qu'il existe des mécanismes de contrôle, c'est-à-dire un cadre juridictionnel.
Des risques en termes de respect de la vie privée donc, mais aussi en ce qui concerne la présomption d'innocence.
Oui, et là c'est lié à une autre des missions de cette unité. Elle devra, je cite, « utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique afin d'analyser des données historiques de crimes dans l'objectif de prédire de futurs délits ». Une technologie qui n'est pas sans rappeler le roman Minority Report de Philip K. Dick, adapté au cinéma par Steven Spielberg, et qui doit permettre de créer des profils de suspects sur la base de calculs statistiques. Et c'est là que les organisations de la société civile tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Une technologie destinée à prédire de futurs délits remet par nature en cause la présomption d'innocence. D'autant que même si c'est l'intelligence artificielle qui sera chargée de créer ces profils de suspects, elle le fera sur la base de critères définis par des fonctionnaires du ministère de la Sécurité et donc par des humains. Un habitant d'un quartier marqué par une forte criminalité pourrait ainsi avoir plus de chances d'être fiché et surveillé par les autorités que celui d'un autre quartier plus tranquille, uniquement en raison de là où il vit.
Et il y a un autre point qui fait débat, Théo, c'est celui du recours à la reconnaissance faciale.
Oui, l'unité d'intelligence artificielle appliquée à la sécurité a vocation, je cite, à analyser des images de vidéosurveillance en temps réel afin d'identifier des personnes recherchées en utilisant la reconnaissance faciale. Là encore, la Fondation Via Libre s'inquiète du vide juridique argentin autour de l'encadrement de cette technologie et de la sécurité des données biométriques et rappelle qu'elle est interdite dans l'Union européenne et qu'elle est fortement critiquée à Londres.
Théo Conscience, correspondant de RFI en Argentine. La suite du programme sur RFI, c'est le journal, dans 5 minutes, et puis à midi et demi, temps universel. Toute l'actualité africaine avec vous, Nicolas Sûr, bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Et vous nous parlerez tout à l'heure
Des inondations qui frappent Maïdougouri, la capitale de l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Des pluies diluviennes ont provoqué l'effondrement d'un barrage. Il y aurait plus de 200 000 sinistrés. Des pluies diluviennes et un barrage qui cède il y a un an cette fois. C'était à Derna, dans l'est de la Libye. La ville avait été quasiment rasée de la carte. 14 000 morts et disparus. Aujourd'hui, la reconstruction est en cours, mais les controverses qui l'entourent sont nombreuses.
À tout à l'heure, Nicolas, sur midi et demi, temps universel. Un peu de musique avant le prochain journal. Voici la Ghanéenne Kayodje à découvrir en ce moment dans la playlist RFI.
Sans frontières,
Catherine Fruchon-Toussaint.
Cette semaine, je vous propose un focus sur la littérature de Lituanie. Ce pays balte d'à peine 3 millions d'habitants est en effet invité d'honneur en France pour une saison pluriculturelle jusqu'en décembre. L'occasion de découvrir les auteurs contemporains lituaniens à travers un grand reportage sur place à Vilnius.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.